Merci pour la lecture. Je vais juste prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, puisque par elle, tu nous révèles qui tu es,
qui nous sommes, ce que tu as fait pour nous et ce que tu attends de nous. Aide-nous ce matin à comprendre ces choses dans le passage qu'on vient de lire. Amen. Vous avez le passage, encore une fois, dans le feuillet ici. C'est utile si vous l'avez devant vous pour la suite de la prédication. Comme vous le savez, on est ensemble dans l'évangile de Luc. Avant les vacances de Noël, le dimanche où on était, rappelez-vous, pas dans cette salle, mais au forum, Timothée avait prêché sur le début du ministère d'enseignement de Jésus. Jésus avait prêché dans la synagogue de Nazareth. Il avait lu dans le livre du prophète Ésaïe. Et on a vu que le message de Jésus concerne le royaume de Dieu. Jésus prêche que le royaume de Dieu est arrivé. Et pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Puisque Jésus, le roi Jésus, est arrivé. Le roi Jésus est venu et donc il annonce que le royaume de Dieu est là. La semaine dernière, avec Samuel, on a vu la deuxième partie du chapitre 4 de Luc. On a vu comment le roi Jésus a autorité sur le mal et sur la maladie. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Jésus règne et il repousse le mal et la maladie. Et donc à partir du chapitre 5, le passage qu'on vient de lire ensemble, on arrive dans une nouvelle partie de l'évangile de Luc. Et dans cette nouvelle partie, la grande question, ça va être de savoir comment les gens répondent à la venue du roi Jésus. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou le rejeter? On vient de fêter Noël, on vient justement de fêter la venue dans le monde du roi Jésus, et donc c'est très à propos pour nous de réfléchir ensemble à cette question-là. Comment réagir à la venue de Jésus? Et Luc va commencer cette nouvelle section de son évangile en nous donnant un bon exemple de comment réagir. Et cet exemple, vous l'avez entendu et vous le connaissez sans doute déjà, c'est Simon-Pierre, l'apôtre Pierre. Et à travers ce récit, Luc veut que nous on apprenne qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons premièrement écouter Jésus, deuxièmement adorer Jésus, et troisièmement proclamer Jésus. Écouter, adorer, proclamer. Le récit que Luc nous raconte ici, les événements que Luc nous décrit ici sont assez simples. Jésus il continue son ministère d'enseignement. Comme on a déjà vu dans les passages précédents, les foules se pressent autour de lui, et les gens veulent l'entendre. Et donc comme la foule le presse, Jésus monte dans une barque qu'il trouve pas très loin de lui. C'est le bateau de pêche de Simon-Pierre. La raison pour ça, c'est qu'en s'éloignant un petit peu du rivage, la voix de Jésus peut porter un peu plus loin. Moi j'ai une chair, Jésus il avait un bateau et de l'eau pour porter sa voix. Et donc il va s'adresser à la foule. Puis l'histoire continue. Un petit peu plus tard, la foule s'est dispersée. Et désormais, Jésus parle juste avec Simon-Pierre, dans son bateau. Jésus demande à Pierre de s'éloigner un petit peu plus du rivage, puis de jeter ses filets à l'eau. Pierre y répond avec surprise. « Jésus, j'ai galéré toute la nuit, sans attraper le moindre poisson. » Et puis, la pêche, c'est un truc que moi je maîtrise, alors que toi, je ne sais pas comment tu penses savoir ça. Et en plus, la pêche, ça marche la nuit, le jour, on n'attrape jamais rien. Mais bon, comme tu me le demandes, je vais le faire. Pierre y jette ses filets à l'eau, et à sa grande surprise, ils se remplissent de poissons. Il n'en a jamais vu autant. Le filet menace de rompre, le bateau menace de couler. Donc il fait signe à ses collègues, Jacques et Jean, venez m'aider. Une fois tous les poissons dans le bateau, Pierre et ses collègues, ils sont conscients qu'ils viennent de vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils ont dans leur bateau quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et donc Pierre s'agenouille devant Jésus et il lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et puis Jésus lui répond, « Sois sans crainte, à partir de maintenant tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. » Et là-dessus notre récit se conclut. Et donc nous on va voir ensemble trois choses, les trois choses que ce passage nous enseigne à nous aujourd'hui. Et ces trois choses c'est, si vous voulez, les trois postures du disciple, les trois postures de celui qui répond favorablement à la venue du roi Jésus. Et vous les avez, si vous avez besoin de suivre, ça peut vous aider sur la petite feuille volante dans votre feuillet. Première posture du disciple, le disciple est assis au pied du maître. Deuxièmement, le disciple est agenouillé devant son Seigneur. Et troisièmement, le disciple est debout pour partir proclamer le message de l'Évangile. Donc premier point, première posture du disciple, assis au pied du maître. On a dit que le passage commence avec la foule qui se presse autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, verset 1. C'est quoi le sens de cette expression, la parole de Dieu ? Bien, dans l'évangile de Luc, dans le livre des Actes, qui sont, je vous le rappelle, un peu le tome 1 et le tome 2 d'une même histoire, c'est l'expression, la parole de Dieu, qui désigne l'évangile, le message de Jésus. Et ce message, le lecteur de Luc, nous, quand on a entendu le chapitre 4 de Luc, on a déjà découvert que c'est un message qui est déjà dans l'Ancien Testament, dans les Écritures d'Israël, dans la Bible, si vous voulez. Jésus il proclame l'évangile à partir de l'Ancien Testament. Il lit le passage d'Ésaïe dans Luc chapitre 4 et il dit « c'est arrivé maintenant ». La nouveauté, c'est que ce qui était annoncé, ce qui était prophétisé est accompli en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est arrivé puisque le roi Jésus est arrivé. Donc Jésus, ici encore une fois, va prêcher la parole de Dieu. Et on l'a dit, comme il n'a pas de chair, il monte dans une bateau pour pouvoir s'adresser à la foule. Et puis, il s'agit bien d'une prédication. Verset 3, on lit que Jésus s'assoit dans la barque pour enseigner. À l'époque, dans une synagogue, on se lève pour lire les Écritures et puis on s'assoit pour enseigner, pour prêcher. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus il avait fait au chapitre précédent quand il a prêché à la synagogue de Nazareth. Donc Jésus est en train de prêcher à la foule. Mais dans notre passage, ce n'est pas tant la foule qui nous intéresse, c'est une personne en particulier, c'est Pierre. Pierre aussi, il entend l'enseignement de Jésus, il écoute. Et puis vous voyez au verset 5 comment Pierre adresse Jésus. Maître. Dans d'autres évangiles, on trouve au même endroit le mot enseignant. Pierre, il a compris que Jésus est un enseignant. Vous me direz, c'est peut-être pas très difficile, ça fait deux chapitres que Jésus enseigne. Mais Pierre, il a compris que Jésus n'est pas seulement un enseignant, mais il faut prendre son enseignement à cœur. Pierre prend l'enseignement de Jésus à cœur. Au chapitre 4, Jésus avait enseigné dans la synagogue de Nazareth, mais ses auditeurs l'ont repoussé, ils ont essayé de le tuer. Ici, au chapitre 5, la foule écoute l'enseignement de Jésus, mais ensuite, ils se dispersent, ils disparaissent de la scène. Mais par contre, quand Jésus enseigne Pierre, il écoute. Quand Jésus dit à Pierre de jeter son filet à l'eau, il est peut-être surpris par ce gars qui ne semble pas vraiment être un pêcheur, mais qui lui dit quoi faire. Mais il le fait. Regardez ce qu'il dit. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. » Pierre, il accepte et met en pratique l'enseignement de Jésus, même quand il ne comprend pas tout, et même quand ça concerne des endroits, des domaines de sa vie où il ne pensait pas en avoir besoin. La semaine dernière, on a vu avec Samuel, dans la deuxième partie du chapitre 4, que Jésus a autorité sur le mal et la maladie. Et dans ce texte, on voit que Jésus enseigne avec autorité. L'enseignement de Jésus a autorité. Et ce n'est pas une autorité qui se limite à un domaine de la vie, à la sphère religieuse. Non, l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire la Bible en ce qui nous concerne, elle a autorité sur toute notre vie. Elle a autorité sur mon travail, sur ma famille, sur mes loisirs, sur ma sexualité. Mais l'enseignement de Jésus a aussi autorité sur le monde entier, pas seulement sur nous. Elle a autorité sur la ville de Bruxelles, sur le gouvernement belge, sur la Commission européenne. Et est-ce qu'on se rend compte qu'un jour, Bart de Wever, Ursula von der Leyen, Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, ils vont tous devoir répondre devant Dieu de s'ils ont gouverné ou non selon l'autorité de l'enseignement de Jésus. Jésus enseigne avec autorité et c'est une autorité qui recouvre tout. Parfois, on a du mal à se rappeler à quel point l'autorité de Jésus est grande et universelle. Et comme Pierre, on doit apprendre, on doit accepter qu'elle doit toucher à tous les domaines de notre vie, même là où on s'y attend le moins. À quoi est-ce que ça ressemblerait de laisser l'enseignement de Jésus façonner davantage la gestion de nos finances, de ce qu'on regarde sur Netflix, de l'hospitalité qu'on montre envers nos frères et sœurs? Je n'ai pas des réponses gravées dans le marbre à ces questions-là. Il n'y a pas des règles à appliquer directement parfois. Mais c'est important qu'on y réfléchisse, qu'on se demande comment l'autorité de Jésus, comment l'enseignement de Jésus doit façonner ces domaines. Et donc ça, c'était la première posture du disciple. Première posture du disciple, assis au pied du maître. C'était le cas de Pierre dans son bateau. Et c'est aussi notre cas aujourd'hui quand Jésus nous parle aujourd'hui par sa parole, y compris sa parole prêchée. Donc on arrive au deuxième point, notre deuxième point, la deuxième posture du disciple, c'est à genoux devant le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué que notre passage, il est construit de manière un peu symétrique. Regardez avec moi. Au tout début, versets 1 à 3, Jésus monte dans la barque. Ensuite, à la fin, verset 11, ils vont ramener la barque à terre. Puis, un peu plus au centre, verset 4, Jésus parle à Pierre. Et pareil, verset 10, Jésus adresse une parole à Pierre. Puis si on vient un peu plus vers le centre, verset 5, c'est Jésus. C'est Pierre qui parle cette fois-ci à Jésus. Et toujours pareil, versets 8 à 9, Pierre parle à Jésus. Et donc au milieu du passage, on trouve les versets 6 et 7, cette histoire de pêche miraculeuse. Pierre, il n'avait rien pêché de la nuit, mais quand Jésus parle, les filets se remplissent et les bateaux coulent sous le poids des poissons. Et donc on a cette structure symétrique, pyramidale si vous voulez, au cœur duquel on a le miracle que Jésus fait. Mais ce que je veux qu'on regarde là maintenant, c'est les deux paroles que Pierre adresse à Jésus. Verset 4, Pierre il avait dit quoi ? Maître, sur ta parole je jetterai les filets. Et maintenant, après le miracle, qu'est-ce qu'il dit ? Verset 8, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre il est passé du disciple qui apprend au pied du maître au disciple qui est à genoux devant le Seigneur. Et Pierre, il a la réaction qu'on doit tous avoir quand on est face à face avec Dieu. Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ça ne veut pas dire Jésus sort de cette barque, ça veut dire Jésus, toi tu es le Seigneur, moi je suis un homme pécheur et je ne peux pas survivre dans ta présence. Confronté à Dieu, Pierre il voit son propre cœur. Et il voit que, comme chacun d'entre nous, ce n'est pas tout rose à l'intérieur, c'est même plutôt sombre. Et surtout, il a en face de lui celui qui est parfaitement saint. Et c'est utile pour nous de voir que Luc, il façonne son histoire, il raconte ses événements de manière à nous faire penser à quelque chose de similaire dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est l'appel du prophète Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe, il a cette vision où il est dans le temple céleste, il a en face de lui Dieu sur son trône, Dieu qui est saint, saint, saint. Et comment est-ce qu'Ésaïe réagit ? On l'a lu tout à l'heure, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Quand on rencontre le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, ça ne nous laisse pas comme on était. Mais rappelez-vous, pour Ésaïe, ça ne s'était pas arrêté là. Ça continue dans les versets 6 et 7, et je vais les relire. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Ta faute est enlevée, ton péché est expié. Et pour Pierre, ça va être pareil. Il est à genoux devant Jésus, il a peur, mais il entend Jésus lui dire, « Sois sans crainte. » Le message que Jésus proclame, c'est un message de pardon envers les pécheurs. Pierre ne peut ne plus avoir peur, Pierre peut ne plus craindre, puisque comme Ésaïe, sa faute est enlevée, son péché est expié. C'est la première fois ici qu'on croise dans l'évangile de Luc, en tout cas aussi clairement, cette notion de péché. Mais ça ne va pas être la dernière. Et on va voir ensemble dans la suite de l'évangile comment les adversaires de Jésus, les pharisiens, pour eux un pécheur c'est quelqu'un qui est très très loin de Dieu. C'est quelqu'un, on le regarde, et on se dit celui-là il est fichu, il n'y a rien à faire. Mais l'évangile de Jésus, c'est pour ceux qui se rendent compte du problème. C'est justement pour ces personnes qui paraissent les plus éloignées de Dieu. C'est la personne qui est trop éloignée de Dieu pour le message de Jésus, pour l'évangile de Jésus. Jésus a un message de pardon envers ceux qui se rendent compte du problème du péché. Et ça commence ici avec Pierre, le chef des apôtres. Et ça continue tout au long de l'évangile de Luc, tout au long du livre des Actes, tout au long de l'histoire jusqu'à nous ici, à Bruxelles aujourd'hui. Jésus apporte cette bonne nouvelle à tous ceux qui tombent à genoux devant lui, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui, comme Pierre, entendent ces mots de Jésus, « Sois sans crainte ». Peut-être que c'est ça qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous venez devant Dieu en reconnaissant que lui, il est saint et nous ne sommes pas comme lui, nous sommes pécheurs, alors Dieu vous dit dès aujourd'hui « Sois sans crainte ». Ton péché est enlevé, ta faute est expiée. Et c'est important de comprendre ça pour la suite de l'histoire que Luc nous rapporte. Ce passage, vous l'aurez compris, c'est un appel à Pierre à devenir un pêcheur d'hommes, quelqu'un qui va aller proclamer l'évangile, proclamer le message de Jésus à d'autres. Mais c'est important de comprendre que le vrai pêcheur d'hommes, c'est avant tout un homme qui se sait pêcheur. Le vrai pêcheur d'hommes, celui qui va apporter le message de l'évangile aux autres, c'est avant tout un homme qui reconnaît qu'il est pêcheur, qu'il a commis des péchés. On ne peut pas parler de l'évangile aux autres si on n'a pas d'abord reconnu son propre besoin de l'évangile. Et donc c'était là la deuxième posture du disciple, à genoux devant le Seigneur.
quand on est conscient de qui Jésus est, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est saint, 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 la bonne réaction, c'est l'adoration. Et donc ça nous amène au troisième point, la troisième posture du disciple. Cette fois-ci, c'est debout pour aller proclamer l'Évangile. Comme tous les miracles, le miracle qu'on nous raconte ici, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le miracle qui est important, c'est la chose vers laquelle elle pointe. Et donc vers quoi est-ce qu'elle pointe? Verset 10, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Jésus, il a pris Pierre pour en faire un disciple. L'étape 1, c'est que Pierre, il est venu face à face avec Jésus, il a confessé qu'il est le Seigneur. Et l'étape 2, maintenant, Jésus lui dit, très bien, reste dans ton bateau et attends que je revienne. Non, c'est pas ça. L'étape 2, c'est que Jésus va mettre Pierre à l'œuvre. Il va lui confier une mission. Encore une fois, on est en train de suivre la trame du passage d'Ésaïe. Dans la partie qu'on a lue, Ésaïe est assuré de son pardon, et dans la suite qu'on n'a pas lue ensemble, il va entendre une voix de la part de Dieu. Et Ésaïe va répondre, « Me voici, envoie-moi. » Et Dieu lui répond, « Va. » Exactement de la même manière, Jésus va prendre Pierre. On a dit qu'il en fait un élève qui apprend, il en fait un adorateur, et maintenant il en fait un missionnaire, quelqu'un qui l'envoie. Parfois, en tant que prédicateur, on se casse la tête à trouver l'illustration parfaite qui explique exactement ce que le passage est en train de dire. Et donc, c'est super quand le passage nous donne l'illustration parfaite. On a cette histoire de pêche miraculeuse. Pierre, il a galéré toute la nuit sans rien attraper. Mais quand Jésus parle, les filets, ils se remplissent. Ils sont pleins à craquer, ça va faire couler le bateau. Et je l'ai déjà dit, mais comme tous les miracles, cette pêche, ce n'est pas une fin en soi. C'est le signe de quelque chose de plus grand. C'est là pour que Pierre comprenne, pour que nous comprenions aussi quel est l'appel d'un disciple de Jésus. Vous l'aurez compris, les poissons représentent ceux qui entendent la voix de Jésus et qui viennent vers Jésus. Le rôle de Pierre, le rôle de tous ceux qui sont disciples de Jésus, c'est de les faire entrer dans le bateau. C'est de leur permettre d'entendre la voix de Jésus, la parole de Dieu, et leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse ici. Les poissons répondent à la parole de Jésus. Les gens répondent à la parole de Jésus. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que le modèle biblique d'une prédication, c'est ce qu'on appelle généralement la prédication textuelle. C'est prêcher, comme le fait Jésus, la parole de Dieu. Et faire ça, ce n'est pas simplement se tenir debout devant une assemblée et de parler de ce qui nous tient à cœur. Ou de prendre un thème et de le mettre plus ou moins en lien avec la Bible. Non, c'est de prendre les textes de la Bible, la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus, et de les proclamer. Sinon, le danger, ce serait que ce n'est plus Dieu qui parle, c'est plus Dieu, celui qui est capable de faire venir les gens vers lui, qui parle, mais ce serait simplement moi. Et si vous ne me connaissez pas encore, je n'ai pas toujours grand-chose d'intéressant à raconter. Mais par contre, la parole de Dieu, dans les mots de l'apôtre Paul, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. En un mot, la parole de Dieu est suffisante. Si vous voulez, une prédication, c'est un petit peu comme une voiture. La question qu'on doit se poser, c'est où est la parole de Dieu, où est la Bible dans cette voiture? Peut-être que pour certains prédicateurs, la Bible, elle est planquée dans le coffre de la voiture, on ne se souvient même plus trop qu'elle est là. Et donc la prédication, elle est dictée par les opinions du prédicateur, par l'actualité politique, peut-être juste la vie de l'Église. Et le prédicateur est confortablement installé dans le siège conducteur. Pour d'autres prédicateurs, la Bible est dans un des sièges arrière de la voiture. Elle n'a pas vraiment beaucoup d'influence sur la conduite de la voiture. Par contre, de temps en temps, elle offre un commentaire un peu utile. Mais la plupart du temps, elle est derrière, silencieuse, et le prédicateur est confortablement assis dans le siège conducteur. Peut-être que l'endroit le plus courant pour la Bible dans cette voiture, c'est le siège passager. Dans ce siège-là, la Bible peut nous être très utile. Elle nous sert de partenaire de conversation quand on s'embête un peu. C'est un GPS quand on est un petit peu perdu. Le prédicateur se sert de la Bible pour illustrer, pour clarifier ce qu'il essaye de dire. Mais c'est le prédicateur qui est toujours dans le siège conducteur. Bien sûr, il y a un dernier endroit où la Bible pourrait être dans cette voiture, et c'est justement ce siège conducteur. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appellerait une prédication textuelle. Le texte biblique, la parole de Dieu, gouverne et dirige tout ce que dit le prédicateur. J'espère que c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Et le rôle du prédicateur, c'est simplement de dire ce que dit la Bible, de la manière dont la Bible dit, et pour le but dans lequel la Bible le dit. Et donc, que ce soit à l'église ici ou dans une autre église à l'avenir, c'est important de garder cette question en tête. Où est la Bible dans la voiture? Où est la Bible dans la voiture? Et c'est important puisque dans ce passage, les poissons viennent à la voix de Jésus quand ils entendent la parole de Jésus. Et partout dans le monde, les gens viennent quand ils entendent la voix de Jésus. Ce n'est pas le talent oratoire ou l'absence de talent oratoire d'un prédicateur qui fait venir les gens à l'église, en tout cas qui les fait venir réellement à Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Je referme la parenthèse. On a dit que le but de notre passage, c'est d'apprendre à Pierre la mission de pêcheur d'homme. Et au cas où ça n'était pas assez clair, rappelez-vous de ce qu'on a dit sur la structure du passage, où il y a des éléments symétriques qui se répondent de part et d'autre. Et donc par deux fois, Jésus avait adressé une parole à Pierre. La première fois, verset 4, c'était « jette tes filets et attrape des poissons ». La deuxième fois, verset 10, c'est « deviens pêcheur d'homme ». Toute cette histoire, le miracle de la pêche miraculeuse, ce n'était pas une fin en soi, ce n'était pas pour que Pierre il ait le ventre plein ce soir-là, c'était pour apprendre à Pierre et pour nous apprendre qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est debout, sur ses pieds, pour aller vers les autres, pour leur parler de Jésus, et pour qu'eux aussi puissent entrer dans le royaume de Dieu. Quand on lit des commentaires sur ce passage, il y a certains commentateurs qui trouvent que l'image n'est pas très bonne. Après tout, des poissons, on les sort de l'eau, on les cuit, on les mange. Ce n'est pas forcément très gentil pour les gens. Mais Luc, l'évangéliste qui écrit ici, il est plus précis que ça. Littéralement, Luc, il nous dit que Pierre, il doit attraper les poissons vifs. Il doit les attraper vivants. Le message de l'évangile, c'est un message qui apporte pas la mort, mais la vie. Et la vie éternelle à tous ceux qui vont croire. Parfois ici, en Belgique, en Occident, au XXIe siècle, on n'a pas l'impression que le filet il soit toujours très plein. Il risque pas de rompre tout de suite à cause de tous les poissons. Et les chrétiens sont une toute petite minorité dans la société. Et quand on voit ça, peut-être qu'on est un petit peu découragé. Et si c'est le cas, il y a deux choses à retenir. Premièrement, on doit garder en tête l'enseignement de ce passage. Dieu fait grandir son Église. Et si nous, on vit dans un pays, dans une époque, où c'est moins visible, ou peut-être pas le cas, on doit se souvenir que c'est l'exception et pas la règle. Et deuxième chose, on devrait être encouragé de savoir qu'ailleurs dans le monde, c'est effectivement différent. En 2025, l'Église de Jésus-Christ dans le monde a grandi. Et donc pour nous, comment vivre en tant que pêcheurs d'hommes ici à Bruxelles en 2026 ? Encore une fois, notre passage ici dans l'évangile de Luc peut nous aider. Qu'est-ce que Pierre il a fait dans ce passage pour attraper tous ces poissons ? Est-ce que Pierre était un pêcheur hors du commun, avec des talents, des capacités que d'autres n'avaient pas ? Pas vraiment. Est-ce que Pierre avait la chance de vivre, de travailler dans un endroit où la pêche était toujours facile ? Non plus, on a dit que Pierre il a pêché toute la nuit sans rien attraper. Et donc, qu'est-ce que Pierre a fait ? Pas grand-chose. Il a simplement suivi les instructions de Jésus. Il a mis ses filets à l'eau quand Jésus le lui a demandé. Et comme Pierre, nous, on doit apprendre que le résultat de la pêche ne nous appartient pas. Aucun d'entre nous est capable de dire à un poisson « nage à droite, nage à gauche ». En tout cas, vous pouvez le dire, mais essayez pas, on va vous enfermer quelque part. Mais Jésus, il dit au poisson « nage à droite, nage à gauche ». Quand Jésus parle, les poissons nagent. Et quand Jésus parle, les cœurs changent. Et donc nous, on doit simplement faire ce que Jésus veut de nous et puis s'attendre à Dieu. Et on peut demander à Dieu, on peut prier Dieu que lui soit à l'œuvre par son esprit pour changer les gens autour de nous. Et donc, comment faire ça aujourd'hui ? Qu'est-ce que notre texte nous demande de faire ? La réponse, c'est proclamer la parole de Dieu. En un mot, faire... pas en un mot, c'est faire comme Jésus, en trois mots. On a dit que Jésus a un ministère de proclamation de l'Évangile. Et les lecteurs de l'Évangile de Luc, ils savent ça déjà depuis le chapitre précédent. Mais ce qui est nouveau dans notre chapitre ici, c'est que la proclamation, ce n'est pas seulement la mission de Jésus, c'est la mission des apôtres, de Pierre, de tous les chrétiens. Si jamais on n'était pas convaincu, on pourrait regarder ensemble le début du livre des Actes. Et c'est ce qu'on fait les jeudis soirs ensemble quand on a nos études bibliques. D'un coup, au début du livre des Actes, Pierre apparaît au devant de la scène. Et désormais, il est vraiment devenu le pêcheur d'homme que Jésus dit qu'il va devenir, ici dans un bateau en Galilée. Mais ce n'est pas seulement Pierre qui est pêcheur d'homme dans le livre des Actes. C'est tous les chrétiens. Ça, on l'a vu ensemble, si vous vous souvenez, le dernier jeudi avant les vacances de Noël. On a vu ce passage où les chrétiens sont dispersés un peu partout, en Judée, en Samarie. Et ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est même plus les apôtres qui proclame la bonne nouvelle, c'est tous les chrétiens. Être un pécheur d'homme, c'est l'appel de tous les chrétiens. Oui, en un sens, la vocation de Pierre, l'appel de Pierre qu'on a dans ce passage est spécifique et unique, mais dans un autre sens, c'est typique de tous les chrétiens. L'appel de Pierre, c'est avant tout l'appel d'un pécheur, au sens de quelqu'un qui commet des péchés, comme nous tous. C'est typique. Et puis la réaction que Pierre a quand il comprend que Jésus est Seigneur, c'est la réaction que tout chrétien a la première fois qu'il vient face à face avec le roi Jésus. Tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, Jésus appelle des pécheurs, il les enseigne, il en fait des adorateurs, et il les redéploie dans sa mission pour parler de lui. Un autre truc important à apprendre ici, c'est que pour être pécheur d'homme, il ne suffit pas d'être pragmatique. On ne doit pas le faire à notre sauce, on doit le faire comme Dieu le veut. Dans notre passage, Pierre est en train d'apprendre que la réussite, ça vient quand on met en œuvre l'enseignement de Jésus, quand on écoute Jésus. Si Pierre était seulement pragmatique, il dirait « Non, moi j'ai rien attrapé de la nuit, le jour où on sait très bien que ça ne marche pas, je vais revenir demain soir. » Mais la foi, elle dit quoi ?« Sur ta parole, je jetterai mes filets. » Le pragmatisme nous dirait « Il faut qu'on change notre message. Il faut qu'on parle un petit peu moins de péché, de crainte de Dieu, parce qu'au XXIe siècle, ça ne marche plus vraiment. » Mais la foi, elle dit quoi ? Nous, on va proclamer la parole de Dieu, comme Jésus nous le demande ici, et on va s'attendre à ce que Dieu soit à l'œuvre. Jésus nous enseigne, il fait de nous des adorateurs, puis nous redéploie dans sa mission pour qu'on devienne des pécheurs d'hommes. Et Jésus nous redéploie de manière assez radicale. Verset 11. « Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui laisse tout pour suivre Jésus. Et peut-être que vous avez besoin de tout laisser pour le suivre. Depuis plus de 2000 ans maintenant, non, depuis bientôt 2000 ans maintenant, depuis le tout début du christianisme, il y a des gens qui laissent tout pour suivre Jésus. Pour partir dans des pays où la parole de Dieu n'a jamais été entendue, pour en parler à d'autres, pour en parler à ceux qui n'ont jamais entendu. Et puis plus près de nous, on manque gravement en Belgique de jeunes hommes qualifiés qui quittent tout pour partir se former au ministère pastoral. Mais tout quitter, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Sinon, on tomberait un peu dans l'erreur de penser que c'est le job de quelques professionnels. Être pécheur d'hommes, c'est le job de 3 professionnels dans l'église. Et puis nous, on va se cacher, on va attendre derrière eux, dans notre bateau, que Jésus revienne. Non, on n'a peut-être pas besoin de quitter notre travail, notre maison. Mais on doit comprendre que toute la vie de tous les disciples doit être donnée à Jésus et mise à son service. Tout quitter, ça veut dire que toute la vie de tous les disciples doit être donnée à Jésus et mise à son service. Quitter tout, ça veut dire que je ne suis plus, par exemple, un plombier qui se trouverait désormais être chrétien, ou un cadre qui a désormais des convictions religieuses qu'il n'avait pas avant, ou une maman qui a désormais quelques activités en plus à l'église qu'elle n'avait pas avant. Non, désormais, c'est un pécheur d'hommes qui se trouve aussi être un plombier, un cadre, une maman. Et dans toutes ces situations, dans vos situations à vous, la préoccupation première, ce n'est pas d'être un meilleur plombier, d'être un meilleur cadre, une meilleure maman, même si c'est des bonnes choses. La préoccupation première, c'est d'être un pécheur d'hommes, un missionnaire auprès de mes clients, de mes collègues, de mes amis, de mes enfants. Ce n'est pas toujours simple, il faut le faire avec sagesse, avec discernement. Mais au fond, être pécheur d'hommes, c'est le vrai job de tous les disciples de Jésus. Je récapitule. On a vu ensemble dans ce passage 3 choses, les 3 postures du disciple de Jésus. Assis au pied du maître pour écouter son enseignement, à genoux ensuite devant le Seigneur pour l'adorer, et enfin troisièmement, debout pour proclamer l'évangile. Quand Jésus attrape un poisson, quand Jésus fait de quelqu'un son disciple, il fait ces 3 choses, il l'enseigne, il fait de lui un adorateur et il fait de lui un missionnaire. Il y a un tout dernier malentendu à éviter. Ce n'est pas 3 étapes successives. Ce n'est pas niveau 1, enseignement. J'écoute Jésus. Puis je valide le niveau 2, adoration. Et enfin, j'arrive au stade ultime, le niveau 3 de la vie chrétienne, où maintenant je suis pécheur d'homme. Ce n'est pas ça. C'est plutôt ces 3 choses en même temps, de manière un petit peu cyclique, si vous voulez. Je n'ai jamais fini d'apprendre plus sur Jésus et sur sa parole. J'ai jamais fini d'adorer Jésus. Et puis, j'ai jamais fini de parler de lui autour de moi. Et c'est important de comprendre ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur Dieu, sur la Bible, avant d'en parler à d'autres. Je peux commencer aujourd'hui, que j'ai été chrétien depuis 40 ans ou depuis 4 jours. Et ce cycle-là, apprendre, adorer, témoigner, c'est un cycle qui fait de nous, comme de Pierre, des pêcheurs d'hommes. Parfois, on est peut-être découragé dans cette pêche. On dit comme Pierre, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. C'est décourageant. Et on peut dire ça au Seigneur. Seigneur, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Je me sens découragé. Mais on doit aussi savoir dire la suite avec Pierre. J'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Jésus est toujours le même. Il a changé des vies à Bruxelles en 2025 et il va continuer de le faire en 2026. Et il nous dit toujours, sois sans crainte. Tu seras pêcheur d'hommes. Je vous invite à prier. Notre Père, merci de nous avoir envoyé ton Fils qui fait de nous ses disciples. Il est le Maître de qui nous apprenons, le Seigneur que nous adorons et le Sauveur que nous proclamons. Tu fais de nous des pêcheurs d'hommes. Aide-nous à accomplir cette vocation. Donne-nous le courage de parler de toi quand c'est difficile et donne-nous les mots pour le dire. Aide-nous à tout laisser pour suivre ton Fils. Tout ce que nous avons, chacun d'entre nous, est à ta disposition pour l'avancée de ton royaume. Nous t'avons prié, Père, en ton Fils et par ton Esprit. Amen. Alors, les